Bonjour, ici Fabio Lopez et bienvenue dans mon podcast du 24 juillet pour le site investir.ch. Le sujet dont je vais traiter aujourd'hui est « Y en a marre du benchmark, plaidoyer pour un reporting plus utile à l'investisseur ». Un sujet qui, de prime abord, est un petit peu rébarbatif, mais qui s'accorde parfaitement avec une actualité récente des fonds de placement. Puisque tous les fonds ont leur benchmark ou indice de référence pour les plus francophiles d'entre nous. Et le premier réflexe de l'investisseur est souvent de regarder si le fonds bat son benchmark. Réflexe futile s'il en est, mais résultant d'années de conditionnement pavlovien à coups répétés de publications souvent académiques, décrivant toute une série de calculs centrés sur le fameux benchmark et supposés aider à mieux comprendre la performance du gérant. Qui veut la performance du benchmark doit acheter un ETF. Si ce proverbe ne fait pas encore partie de l'almanach du financier, il mériterait d'y figurer en bonne place. En effet, si pour n'importe quelle raison un investisseur désire obtenir la performance la plus proche possible d'un indice boursier, l'ETF est assurément le produit le plus à même de délivrer le résultat souhaité. A l'inverse, les investisseurs qui désirent une gestion active impliquent par ce choix qu'ils attendent autre chose que la performance de l'indice. Et autre chose, c'est par définition quelque chose de différent. Tous les calculs habituels utilisant un benchmark ne tentent qu'à démontrer les différences entre une gestion passive et une gestion active. Le secret espoir étant bien entendu pour le gérant actif d'obtenir une performance supérieure à celle du benchmark. Et dans une majorité de cas, le gérant de fonds a bien du mal à dépasser l'indice de référence lorsqu'on compare les performances sur une base équitable, par exemple en tenant compte des frais et des dividendes. Mais l'on a besoin de comparaisons. Les comparaisons basées sur des classements sont donc fort utiles afin de juger de la qualité du fonds sélectionné. Il est à mon sens plus logique de comparer directement des fonds entre eux plutôt qu'à un benchmark inadapté à l'exercice. En effet, si deux fonds battent le benchmark, la question suivante sera toujours de savoir quel fonds bat son concurrent, car l'investisseur est toujours à la recherche du meilleur fonds dans l'absolu, et entre parenthèses, surtout sur les 6 derniers mois, mais ceci est une autre histoire. Et au final, le classement de fonds n'a rien à faire du benchmark. Sur certains univers d'investissement, peu de fonds battront l'indice boursier de référence, alors que pour d'autres stratégies, ce sera beaucoup plus fréquent. L'information relative au benchmark est finalement peu pertinente lorsqu'il s'agit d'identifier les meilleurs produits pour l'investisseur. Un indicateur plus approprié serait probablement la performance moyenne des fonds à disposition de l'investisseur, qui serait ainsi si le fonds retenu est meilleur que la moyenne de ses concurrents, ou se trouve plutôt dans le top 10% du classement, ou au contraire parmi les 25% les moins bons. L'information serait ainsi plus qualitative, surtout si l'ensemble des fonds offerts à la vente sont retenus pour les calculs. Et ceci est parfaitement envisageable puisque de telles bases de données existent déjà. Elles devront cependant permettre une segmentation adéquate des fonds proposés. C'est ainsi que l'on arrive sur le concept central d'univers d'investissement qui devra être redéfini sur des critères beaucoup plus stricts et standardisés. Mais comparaison n'est pas raison, comme dit le proverbe. Les classements de fonds permettent donc à l'investisseur de trouver le produit le plus adapté à ses attentes, que ce soit sur base du rendement absolu ou corrigé du risque, ou encore de la performance la moins volatile, ou de la résistance à une correction. Pour ce faire, l'investisseur va comparer des fonds entre eux, pas un benchmark. Ce type de comparaison met en lumière l'un des principaux écueils auxquels sort l'investisseur, le fait de comparer des produits plus ou moins hétérogènes. La réalité souvent observée est que les meilleurs fonds seront ceux qui ont le moins en commun avec leur benchmark et prennent donc souvent des libertés avec le référentiel de comparaison qui leur est associé. Ceci me rappelle par exemple l'anecdote suivante. Lorsque j'étais responsable de l'analyse des fonds actions européennes, je devais également assurer le suivi d'une délégation de gestion à une société de gestion basée en Allemagne qui gérait un fonds en actions allemandes. Et régulièrement, l'administrateur du fonds au Luxembourg m'appelait complètement affolé parce que le gérant ne respectait pas les guidelines qui étaient dans son prospectus. Et lors d'une de ces situations un peu problématiques, lorsque je parlais au gérant, j'avais remarqué dans le listing de son portefeuille qu'il détenait des mines d'or en Afrique du Sud. Je lui ai donc posé la question et il m'a dit que les mines d'or étaient un investissement magnifique, qu'elles étaient extrêmement mal valorisées et qu'il fallait en profiter. Je lui ai dit oui, mais ce sont des actions qui sont des sociétés d'Afrique du Sud. Et il m'a répondu comme si je n'avais rien compris que, bien évidemment, vu qu'il n'y avait pas de mines d'or en Allemagne. Bon, explication totalement inacceptable, et il a été forcé de revendre les positions afin de respecter le mandat que nous lui avions confié. Pour en revenir aux univers d'investissement, alors tels qu'ils sont définis actuellement, ils sont souvent peu précis, du type action européenne ou action européenne de petite capitalisation. Et au sein de chaque univers, on trouvera des fonds suivant en plus différents indices de référence, parfois MSCI, parfois Eurostoxx ou même FTSE. Ce qui illustre que le concept d'univers est plus utile que celui de benchmark. Et justement, il faut que l'on aille vers une meilleure définition des univers d'investissement. Des catégories basées sur des univers de titres achetables apporteraient une meilleure homogénéité au classement et de fait une information de meilleure qualité aux investisseurs. Les critères porteraient pour les fonds d'action sur les marchés retenus ainsi que la fourchette de capitalisation boursière. Bien entendu, une standardisation sera nécessaire afin de ne pas se retrouver avec autant de catégories que de fonds. Mais sans aller vers une politique de standardisation extrême telle que développée par la plateforme AM League, que vous retrouvez régulièrement sur notre site, il serait envisageable de créer des catégories relativement larges et standardisées par rapport à l'offre de fonds existantes. Par exemple, la catégorie des fonds d'action de la zone euro investissant dans des sociétés d'une capitalisation minimale de 10 milliards. Ou bien la catégorie des fonds d'obligations émises par des sociétés américaines notées au minimum triple B et dont la taille d'émission est d'au moins 500 millions. Ou encore la catégorie des fonds d'action Asie hors Japon investissant dans toutes les sociétés sans contrainte de capitalisation. Ceci est évidemment à comparer à ce que l'on retrouve aujourd'hui dans des prospectus qui sont souvent rédigés de manière à offrir la plus grande liberté possible aux gérants, liberté dont ils ne profitent pas toujours, mais qui amène à des confusions au niveau de l'investisseur qui aurait lu ces informations et qui voudrait s'en servir pour sélectionner les produits. Ce qu'il faut, ce sont des informations réellement utiles à l'investisseur. Alors, dès lors que ces univers d'investissement seraient établis, il faudra renseigner l'investisseur sur la part du portefeuille qui est investi en dehors de l'univers officiel. Un des points évidemment les plus intéressants, si l'on se réfère à l'anecdote du fonds allemand dont je parlais il y a quelques minutes. Il faudrait également fournir la répartition des titres en portefeuille par capitalisation boursière. Et plus important encore, qu'un indicateur de la liquidité des différentes positions soit fourni. Par exemple, en comparant la taille de chaque position au volume journalier moyen des 3 ou 6 derniers mois. Ces informations devraient être fournies sur une base standardisée chaque mois, sous forme de distribution et sans aucun besoin pour le gérant de dévoiler ses titres en portefeuille. L'investisseur comprendrait dès lors beaucoup mieux quels sont les risques d'un fonds par rapport à un autre. Que le fonds A bat le fonds B sur le même univers d'investissement parce qu'il détient 15% de son portefeuille hors de l'univers, et qu'il s'agit de très petites capitalisations, particulièrement illiquides. Mieux que tous les calculs basés sur les benchmarks classiques, ce type de reporting aurait assurément permis d'attirer plus rapidement l'attention des investisseurs sur les problèmes de liquidité qui ont mis à mal certains gérants de fonds au cours des derniers mois en s'étalant en première page de la presse financière. Je parle évidemment des cas GAM, Woodford et H2O qui n'ont pas pu vous échapper. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Pensez à regarder notre site investir.ch pour y découvrir d'autres articles. Très bonne journée et à bientôt.